Et ensuite, à côté, Eric Giacometti, bien connu de tout le monde et pour lequel l'affiche est largement renseignée, qui me suis laissé dire né 4 mois avant l'assassinat de John Kennedy, ce qui lui donne un alibi, mais tout juste.
C'est rétro, je pense.
Bon. Mon petit camarade Ayerdal, qu'on ne présente plus non plus, écrit des tas de choses complotistes et surtout met à nu les complots des autres. Et raconte un petit peu ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir dans un certain nombre de thrillers récents. Vous avez lu Transparence, vous avez lu Bastard qui vient juste de sortir, vous avez lu évidemment Rainbow Warrior. Bon, je pense qu'il aura tout mot à dire, malgré son côté extrémiste d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Et son voisin, que je vais laisser pour s'introduire parce que. Ces gens-là, notamment recommandables, ont écrit sur le complot. Ont écrit sur le complot, donc sur ce, disons, sur les complots qui se mettent en place, sur les complots qui ont été, sur la manière dont un complot, je dirais, quelquefois oublié par notre complot. Mais il y a quand même une véritable question, parce que le complot, c'est quelque chose qui existe dans l'histoire depuis la plus longue antiquité. On a assassiné César avec le complotiste, et je suis certain qu'à l'époque des hommes des cavernes, il y avait un certain nombre de signes sur les murs des cavernes qui étaient des symboles d'un groupe quelconque pré-maçonnique qui se complotait pour péter la gueule à la caverne d'à côté. Mais pourquoi l'humanité a-t-elle cette espèce d'envie de croire qu'il y a des gens qui tirent des ficelles occultes et dont nous sommes les marionnettes? Lionel, pourquoi? Je te rappelle que tu es enregistré.
Alors, j'ai une réponse légère et une réponse pas légère. La réponse légère, c'est parce que c'est cool. Ça fait une bonne histoire. Je veux dire, quand on vous explique que finalement, l'histoire n'est pas ce que vous en pensez, mais qu'en fait, il y a des secrets, la première question qu'on se pose, c'est avant quoi? Donc, ça fait une bonne histoire. Moi, ce qui m'intéresse dans Léviathan en particulier, c'était certes le complot mondial avec la grande société qui a des projets secrets, etc. C'est un drôle de fou, mais surtout ce qui m'intéressait, c'était de voir un complot autour d'un seul homme qui a rien demandé à personne et de l'accompagner à travers cette histoire-là et de voir ce qu'il en sortait, de le soumettre à tout un tas de pressions et de voir ce que ce type-là avait dans le ventre comme tripe pour s'en sortir. Et ça fait une histoire, j'espère, agréable. La réponse plus sérieuse, c'est un peu l'écho un peu de la première, c'est que de temps en temps, quand j'allais dire de tout temps, ça c'est une terrible production de rédaction de lycéens, mais dans l'ensemble, on vit dans un monde extrêmement vaste, plus vaste que nous, et on s'interroge énormément sur l'éclair qu'on a vu dans le depuis l'époque des hommes et des cavernes, d'ailleurs, si l'éclair qu'on a vu qui est tombé sur l'arbre de la grande colline, est-ce que c'est pas le signe que Dieu n'est pas content avec nous? Est-ce que si je le prie et que et on cherche des explications au monde de façon générale? Et de temps en temps, quand on est un peu insatisfait de ce qui peut nous arriver de façon générale, c'est une propension humaine à aller chercher des explications qui sont autres, que ce soit des dieux, des grands barbus dans les nuages, ou à une époque un peu plus rationnelle et empirique et matérialiste comme aujourd'hui, se dire que éventuellement chercher des responsables. Et les complots, c'est des bons responsables, surtout qu'en général, les complots sont impossibles à prouver. Et c'est bien la preuve qu'ils sont forts, c'est ça.
Éric, toi, tu as en plus le chic d'avoir un complot qui a des racines dans le passé, genre c'est parti dans les croisades, ou c'est allé très loin, et 700 ans plus tard, la société est encore là, et il y a encore des gens qui gardent et qui surveillent le secret. Tu crois vraiment qu'un secret peut rester à une époque comme la nôtre, où tout est sur Internet? Tu crois vraiment qu'un secret datant de l'époque des croisades, il est passé sur YouTube en 5 minutes, quelque part?
Je ne peux pas en parler, parce que je n'ai pas l'autorisation.
Oui, en fait, on va pouvoir faire le débat, mais on sera obligé de vous tuer ensuite.
Disons qu'on a accès avec Jacques Collin à des vérités cachées, c'est vrai, et donc on est obligé en revanche de ne pas donner de source. Tu me comprendras aisément. sur une conférence dans un temple maçonnique de l'autre côté du boulevard. Et là, franchement, ça fait froid dans le dos. Quoi. Donc, je peux pas en dire plus, mais je suis d'accord.
De démontrer à la fois le complot pour que ça se plante et pourquoi d'une certaine façon ça fait vendre des bouquins. Parce que si après ça vous lisez pas son bouquin pour savoir ce qui se passe vraiment, bah c'est vraiment que bon.
Je veux dire qu'on va être obligé de laisser sortir quand même.
Ah non, non, on les sent, mais je veux dire, ce sera à titre posthume. Et alors, toi, tu as écrit un certain nombre de livres dans lesquels tu ne peux pas véritablement dire qu'il y ait des complots. Je dirais même qu'au contraire, ce que tu décris, c'est là. Voilà. Il y a quelqu'un qui a comploté. Avec elle, ça ne marche pas. Il y a des complots, si je puis dire, ou tout au moins des idées, des structures comme dans Rainbow Warrior pour changer le monde, mais il y a aussi des gens qui se débattent face aux complots, il y a des gens qui se débattent face à des structures organisées, et il y a aussi, en filigrane, des luttes qui durent depuis quand même un certain temps entre des archétypes. Tu as décrit deux luttes d'archétypes qui remontent aux Égyptiens, là, dans Bastard en particulier.
Ah merde, tu viens de spoiler le bouquin. En deux temps. Ce n'est pas parce que je suis paranoïaque que vous n'êtes pas tous en train de compléter contre moi. D'accord, soyons clairs, j'en ai conscience.
Oui. Comment tu le sais?
J'ai les noms. J'ai les noms. Ils me sont parfois envoyés de façon divine. Parfois, c'est des séries qui m'informent. Pardon, dis plus des séries, ça vient de changer encore une fois.
La NSA.
Non, non, la NSA ne m'informe plus.
C'est la NSA ne m'informe plus. Ce n'est pas un contrat international.
En fait, ce qui est intéressant, la théorie du complot a été inventée par les gens qui complotaient de façon à dévaloriser le fait qu'on puisse avoir conscience qu'effectivement, il y a des types qui sont en train de comploter contre nous. Hein? C'est pour ça que je n'en dirai pas plus, ils m'écoutent. Merde, j'ai oublié d'éteindre mon portable et d'enlever la carte à puce. En fait, je ne sais pas, moi, je mets pas en scène la théorie du complot.
Tu mets en scène quand même des gens qui sont confrontés à un ensemble, je dirais, de puissances qu'on peut qualifier d'occultes, même si ce ne sont pas du tout des puissances secrètes, d'une certaine façon, mais ce sont des puissances dont le travail consiste à travailler dans l'ombre, CIA, NCSA, etc.
En 2004, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Transparence, dans lequel, pour la première fois, dans mon œuvre personnelle, je parle d'un truc qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle Prisme. Très récemment, les gouvernements européens, qui étaient absolument au courant, ont découvert que Prisme ne servait pas éventuellement qu'à surveiller un certain nombre de potentiels terroristes des Américains, mais c'était un outil, on va dire, commercial et industriel, permettant aux États-Unis de prendre un peu d'avance dans un sens, de pouvoir influer sur un certain nombre de bourses, etc. Ça a fait l'une des journaux, l'État français avait beaucoup, c'est mal. Et en même temps, on n'a rien dit parce qu'on a le même outil en France, il ne faut pas arriver sur le... pas compliqué l'informatique, il y a un moment quand on sait gérer le web, on s'en sort relativement bien. Donc, est-ce que ça doit être pris comme étant la théorie du complot parce que je l'ai écrit en 2004 avant que ça sorte, ou est-ce que aujourd'hui, alors que c'est sorti dans tous les journaux et on nous dit arrêtez les complotistes, c'est bon, hein. Moi je sais pas, ça m'amuse. En tant qu'auteur, ce qui est toujours intéressant, c'est de réfléchir à la marge d'un certain nombre de choses qui font partie d'une documentation. Des documentations qu'on peut vérifier très facilement, d'autres où c'est un petit peu plus compliqué, faire des recoupements nécessite parfois d'aller très 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 loin dans le travail, même de temps en temps de se compromettre avec un certain nombre de gens qui sont des humains comme nous. Et non, parce que par contre les martiens, moi je les ai appelés l'autre jour, ils sont au courant de rien, sans dire. Et donc plus on avance, plus on va, et puis quand on écrit, comme nous, des histoires qui sont là à la fois pour faire rêver, pour faire peur, pour faire réfléchir, et qui se projettent, soit à court terme, soit à moyen terme, soit à très court terme, dans cette espèce de présent que nous vivons, on tient compte d'un certain nombre de données, des fois on est un tout petit peu en avance, donc effectivement en 2004, quand on parle de Prisme pour la première fois, et bien il va falloir 9 ans en Europe pour s'apercevoir que ça existe. Waouh! Est-ce que j'étais dans la théorie du complot? Ou est-ce que j'étais en train de décrire en fonction des informations dont je disposais un outil qui était en train de, qui se mettait en place? C'était un petit peu les débuts au délire. Hein, voilà. C'est un peu ça la théorie du complot aussi.
Ma théorie du complot, ça aurait été si tu avais mis un écran de fumée sur cette histoire pour cacher ce qui se passait vraiment. Mais à ce moment-là, là, c'est même plus de la paranoïa, c'est de la méta-paranoïa.
La théorie du complot a été d'expliquer que c'est Léonard de Vinci qui, au départ, par l'intermédiaire de plans secrets réalisés avec Michel-Ange, par exemple, je parle
avec vous. Vous savez très bien, Michel-Ange, vous pouvez dessiner des plans, il n'y a pas de problème.
Ah oui, oui, mais le plan de la baraque, c'est Michel-Ange qui l'a dessiné. Hein. Il ne le sait pas, enfin, ne lui dit rien également. Non, oui, là, on est dans la théorie du complot, c'est-à-dire que si, à un moment donné, on va piocher très, très, très loin dans le passé des trucs absolument invérifiables et qu'on reconstruit une partie de l'histoire, soit en fonction de choses qui sont réelles, soit en fonction de choses qu'on va fictionnaliser, ça se dit ça, romantifier. Je vous rappelle que je suis auteur. Quand moi j'écris une connerie, 2 ans après, dans la rousse. Non, mais je ne présente pas. Hein. On est tous dans ce cas. On va quand même inventer des mots qui n'existent toujours pas, mais ça ne saurait tarder. Et si on a besoin qu'ils existent, non mais on est, je suis toujours à la théorie du complot. Je vous explique, en tant qu'auteur, complotiste, j'invente un mot. Bon, je ne suis pas un auteur extrêmement lu, je travaille dans des mauvais genres, c'est canal. Par contre, si j'ai envie qu'il soit au dictionnaire 2 ans plus tard, je le vends à un publiciste qui va s'en servir chez L'Oréal. Je vous raconte une histoire vraie, je l'ai vécu, j'ai fait la promotion, et à l'époque j'étais au marketing chez L'Oréal. Donc on a inventé un mot qui s'appelle soyance. Dans un bouquin d'un auteur, non pas de SF, mais de Polar, qui s'appelle Frédéric Dard. Bon, cheminant. 2 ans après, on s'en sert en termes de pub, des journalistes le reprennent à la télévision. À l'époque, il n'y avait que 2 chaînes de télévision en France. Il est dans le dictionnaire maintenant. Voilà. Et ça marche toujours. Vous voyez le complotisme jusqu'où il peut aller. On peut influencer votre mode de pensée en changeant. 2-3 sens de mots en faisant des trucs ridicules.
Donc, le monde en droit d'étude, ce roman du dictionnaire, en fait, tout ça, c'est un peu de la vache. Alors, justement, toi, il y a une question que je me fais toujours poser en lisant des théories du complot, c'est que, grosso modo, entre 2000 et 2010, on a dû publier 2500 bouquins expliquant qu'il y a un complot en cours. Est-ce que l'ensemble de ces complots ne se gêne pas? Est-ce que la raison pour laquelle aucun d'eux n'aboutit, c'est qu'en fait, il n'y a pas la place parce que les autres sont en train de gêner en permanence en disant non, c'est moi qui vais le faire sauter d'abord, ce truc-là.
Je crois que les limites, ils font la queue, quoi. Je crois qu'ils sont tous en train de se nourrir les uns les autres. Tout à l'heure, on parlait d'Internet. C'est un formidable outil de communication, Internet, pour moi. Mais de communication et d'échange, mais pas d'information. Les gens ont tendance à ne pas plus faire la différence. Je suis allé assister à la conférence d'Eric au Temple. Il y a une théorie qui est super intéressante, c'est quand tu as, on va l'appeler un boudin ou quelqu'un, enfin non, ça c'est péjoratif, on va, quelqu'un de différent, qui exprime une théorie différente, voire farfelue. S'ils sont que 2 ou 3 à se croiser en ayant cette théorie, ils ne peuvent pas la nourrir. En revanche, quelle que soit la théorie que tu formules aujourd'hui, si tu peux canoter, parce que Google est ton ami sur Internet, tu vas retrouver 1 million de références qui vont te permettre de construire toi-même et d'alimenter ce délire. Et je pense que, justement, toutes ces théories qui se multiplient, elles se nourrissent les unes des autres par ce formidable outil qui devrait nous permettre de nous élever et qui ne fait qu'alimenter, en tout cas pour une part, un paquet de psychoses. Ce qui est rigolo, et pourquoi est-ce que tu vas retrouver cette théorie du complot dans les thrillers, c'est que je pense que le thriller aujourd'hui, on est là, d'abord pour faire passer un moment dans les pères, on est OK là-dessus, mais avant tout, en tout cas, je pense que c'est la démarche de mes petits camarades là, c'est de pointer des aberrations du monde moderne. Et à partir de là, le complot, effectivement, il est partout. Tu ne peux pas faire un pas dehors sans voir un type qui pense que... Le problème, c'est que là, il va trouver tous les moyens et tous les outils pour justifier son truc. Et là, ça devient très, très compliqué. Parce que quand tu tombes sur un véritable complotiste ou un type qui est persuadé que ça existe et qu'ils sont partout, le seul fait de lui proposer que ça n'existe pas te rend suspect. Et là, ça devient très, très compliqué.
Mais c'est pire, le simple fait de le croire te rend suspect parce que tu es visiblement un agent provocateur.
Tu peux aussi te demander s'il n'a pas fait ça pour que tu te démasques.
Mais c'est un point de vue effectivement intéressant parce que l'ensemble des gens qu'on rencontre dans la rue, je vous garantis que quand vous prenez le bus aux États-Unis, des gens qui vous parlent de gouvernement qui a caché une machine qui guérit le cancer, mais ils s'en servent que pour.
plus en disant, moi je sais. Et puis j'ai un cousin qui connaît quelqu'un au ministère, qui a rencontré le gars qui a programmé le truc, qui devait creuser le trou en Norvège, mais ça c'est peut-être toujours pas fait, mais c'est prévu. Enfin, attends, que pensez plus que vous. Mais je veux dire, je pense que quand vous avez des gens comme ça qui vous expliquent ce genre de raisonnement, ça repose sur deux choses. D'abord, ça repose sur une peur. La peur que quelque chose se produise et qu'il ne soit pas géré. Et la deuxième, c'est qu'on a peur des structures qui nous gouvernent parce qu'elles ne sont pas transparentes, elles sont totalement opaques. Et le troisième point, qu'on a, qui sont noyautées par un groupe de pression quelconque. Alors, depuis deux siècles, on a eu droit à tout le monde. On a eu droit, aux riches, aux francs-maçons, aux juifs, aux nazis, aux gens de gauche, aux communistes. Enfin, à peu près tout le monde a noyauté tout le monde. D'ailleurs, on se demande comment ils s'y retrouvent. Parce qu'à mon avis, il y a tellement, par exemple, de noyautés, le communiste sont en train de noyauter le Front National, que tous les mecs du Front National, ils sont en train de noyauter, je ne sais pas, c'est pas possible, ils ne peuvent pas y avoir. Et donc, vous avez cette situation en disant on a peur de l'autre, on a peur de ce qu'on ne comprend pas, on a peur des hélicoptères noirs qui vont débarquer, on a peur du fait que les extraterrestres sont là, mais que personne ne nous dit. Je veux dire, enfin, ici, on n'est pas épinal quand même, c'est, on sait tous les jours quand on croise les gens, on se lève. Donc, cette peur-là, elle vient d'où? Elle vient d'où? Parce qu'elle est relativement récente. Je ne pense pas que à l'époque du siècle des Lumières, même que le napoléonien moyen, il avait réellement peur du fait qu'on lui cachait quelque chose.
Tu parlais de la peur des francs-maçons. La peur des francs-maçons, elle est née d'un best-seller. C'était en 1797. On était en pleine révolution. Il y a un abbé qui s'appelait l'abbé Augustin Barruel, jésuite, qui a sorti le premier bouquin expliquant que la révolution française était le fruit du complot des francs-maçons et des Illuminati. Ce bouquin a été financé en partie par l'Église catholique de l'époque qui était persécutée par les révolutionnaires. Ça a donné naissance à ce courant de pensée anti-maçonnique, mais qui ensuite, il y avait une peur réelle que la révolution française était instrumentalisée et sous les mains de gens dont on ne connaissait pas l'existence. Donc à chaque fois, ces peurs, les peurs, je pense, sont ancestrales. Elles ne surgissent pas nulle part, il y a toujours quelque chose qui provoque ces peurs. Et deuxième point sur cette vision, il y a la peur, mais je pense aussi qu'il y a une dimension qu'on ne voit pas, il y a aussi le goût du merveilleux. C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'ai toujours été fasciné par les sociétés secrètes, et ça a commencé avec Joseph Balsamo. Quand on lit Joseph Balsamo Dumas, c'est quoi? C'est Joseph Balsamo qui s'appelle le Grand Coffre, qui est un grand maître suprême, qui vient, on pense à l'Allemagne, et qui vient propager l'esprit des Lumières, la Révolution, avant la Révolution française. Or, ça me fascine, ces sociétés secrètes, et quand on voit de nos jours ce goût, par exemple, pour les sociétés secrètes, qu'elles soient maçonniques ou maintenant souvent le grand complot, c'est les Illuminati, c'est avec le thème de notre prochain bouquin, il y a aussi le fait de dire, et si, il y a quelque chose qui se passait en dehors de la réalité que les médias nous présentent, et si c'était vrai. Et ça rejoint tout ce qu'on connaît depuis le début sur X-Files et tout, il y a quelque chose qui, en fait, transforme cette réalité banale, grise, qui parfois peut être assez désespérante.
Oui, certains de ce côté-là, on peut facilement faire un thriller où on joue à la fois sur la peur et sur l'envie. Parce qu'on a des sociétés secrètes qui font peur, mais on a des sociétés secrètes dans lesquelles on se dit aussi, si j'en fais partie, ça me rendrait quand même bien service parce que je pourrais faire des choses que je n'ai pas le droit de faire. Ouais, c'est très fantastique. Toi, tu as décrit ça d'ailleurs, d'une certaine façon.
Oui, bah, c'était le. La trilogie, il y a parlé d'un certain nombre de choses, mais il y avait une particularité qui était que moi, quand je disais du thriller ésotérique, je suis pareil, moi je suis comme toi, l'idée des sociétés secrètes, l'idée de tous ces secrets cachés, c'est évidemment, l'humain est comme un petit chaton. Si on lui montre quelque chose de caché dans une boîte, il faut absolument aller chercher ce qu'il y a dedans. Donc, c'était une frustration que j'avais un peu dans le certains thrillers d'une feuille ésotérique, puisque moi je disais ça, je trouvais ça très sympa, c'est que fréquemment, justement, le secret de l'air n'aimait pas le truc, parce qu'évidemment, sinon l'auteur devait vous tuer après, ce qui était fâcheux. Et un des moteurs, justement, de Léviathan, c'était de me dire, bah, justement, toutes ces sociétés, certaines sociétés secrètes qui sont censées détenir un savoir initiatique qui permet peut-être éventuellement de transcender le temps et l'espace, c'est toute la littérature initiatique qui repose sur l'hermétisme occidental et tout, etc., et qui va carrément, puisqu'on est aux imaginaires et qu'on parle donc de magie, taper dans la magie, me dire si ces sociétés secrètes sont secrètes, c'est justement parce que les secrets initiatiques marchent, donc la magie fonctionne. Et donc, d'aller jouer sur ce terreau-là qui est évidemment extrêmement émerveillant et intriguant, puisque c'est ce savoir initiatique, même s'il est caché, il est accessible. Un petit aparté sur le mot ésotérisme. Il y a savoir ésotérique qui était à l'intérieur. Exo, c'est l'extérieur et exo, c'est l'intérieur. C'était simplement ça. Et l'ésotérisme, c'est tout simplement le savoir qui est caché par définition. Donc, oui, moi, j'ai totalement. C'était l'envie que j'avais. C'était tout à fait. Tu l'as très bien mis en avant, je trouve. Cette espèce d'émerveillement, et justement d'aller jouer avec les traditions, les mythes ancestraux, et se dire, et si ce savoir initiatique traditionnel qui remonte à la nuit des temps, et qui résonne avec des choses très profondes dans l'esprit humain, au niveau de la réalisation, soit simplement, et la psychologie, si ça c'était possible et c'était vrai, qu'est-ce que ça donnerait sur notre monde réel, et qu'est-ce que ça donnerait si quelqu'un, plusieurs personnes, obtenir une emprise sur le monde. Je trouve que c'est un terrain de jeu fascinant pour raconter des histoires.
Oui, en plus, j'ai tout corps constitué, je pense aux églises, je pense par exemple à des choses comme les Templiers à une époque, étaient censés détenir une parcelle du pouvoir et des choses qu'ils avaient en réserve dans les caves au cas où ça se passerait mal, si je puis dire. Vous avez des Américains qui vous expliquent que l'Église catholique est prête depuis déjà quelques années à faire sortir un clone de Jésus. Et que le problème ira vraiment mal, quoi. Je veux dire, donc, à la limite, ils vous disent ils l'ont, ils attendent, c'est prêt, etc. Ils sont peut-être en train de l'élever dans les caves du Vatican. Le pauvre gosse, il ne voit pas la lumière, c'est pas marrant, surtout avec le touriste qui passe. Mais bon, donc, vous avez réellement ce genre de choses. Il existe des secrets que toute une structure bien connue, étatique, plombée, etc., dans lequel on ne peut être pas possède. Il y a un problème, quand même, c'est que dès qu'on bute sur, je dirais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, la réponse, c'est rien. C'est-à-dire qu'en fait, des complots qui ont réussi à extrêmement peu, et des complots, je dirais, qui, basés sur ce qu'on croit, qui pourraient donner quelque chose, il y en a peut-être encore moins. C'est extrêmement heureusement d'ailleurs, parce que la plupart des gens qui écrivent des thrillers de complots, c'est le complot qui perd la fin. Mais il perd la fin dans la vraie vie aussi, d'une certaine façon. Il n'y a pas encore les hélicoptères noirs qui ont assujetti les Américains, enfin, parce que l'Amérique est bourrée d'hélicoptères noirs qui viennent atterrir dans vos champs la nuit parce que pour essayer de vous asservir, etc. etc. Enfin bon, c'est bien connu. Donc tout ça, ça ne marche pas. Mais à un moment donné, on se dit, il y a un complot qui marcherait. S'il y a quelqu'un qui a eu envie d'écrire ça, dire un truc, je ne parle pas de Da Vinci Code, mais quelque chose dans lequel il y aurait un savoir ésotérique, dans lequel effectivement quelqu'un s'en servirait et découvrirait la manière de contacter les extraterrestres grâce aux mesures qui sont cachées dans les pyramides Maya et ce que tout le monde sait, mais qu'on a réussi à rassembler. Ça serait un super rôle pour Indiana Jones, d'une certaine façon, ça a peut-être déjà été fait. Mais est-ce que quelqu'un a poussé le complot jusqu'au moment donné où ça marche et où le monde est transformé en disant à partir de maintenant, c'est nous qui veut dire mission.
Personne. Il y a des parlementaires. J'ai un petit problème là parce qu'on est passé d'un truc qui était assez amusant, qui est la théorie du complot qui est adaptable à peu près tout, à un ésotérisme assez flamboyant et à tel point qu'on parle là en quelques mots là. C'est quand même très étrange. Je vous dire des trucs comme ça, on parle de théorie du complot, ça. Globalement, c'est un mot qui est moitié brésilien.
Dans tout temps, dans le dictionnaire.
Donc, vous comptez sur moi, je le mets dans mon prochain bouquin, je m'arrange avec le publiciste. Théorie du complot signifie qu'il y aurait des gens qui s'entendraient pour avoir un certain nombre d'influence, de lobbying, de pouvoir sur le monde. Citer deux trucs extrêmement hallucinants, parce que je pense que c'est des mots que vous connaissez tous. Le premier s'appelle le Club Bilderberg. Le deuxième s'appelle la Commission Trilatérale. Si vous lisez les journaux, pas français, hein, par exemple belges, suisses, vous avez à peu près des informations régulières sur le fait qu'un certain nombre de fortunes économiques, de puissances industrielles et d'hommes politiques se réunissent pour envisager, alors ça c'est la façon, je vais le faire très propre, pour envisager l'année ou les deux années qui arrivent, comment on va faire pour s'arranger pour que le monde aille au mieux. Vous avez vu quand je reste poli là. Ils font quoi à votre avis là? Ils ne sont pas en train de se le partager. Donc la théorie du complot n'a pas besoin de remonter à des choses ésotériques ou à des sociétés secrètes ou à des. C'est juste, et en plus ça c'est de visu, on en parle seulement concernant le Club Bilderberg, donc qui date de, rappelez-moi si je dis une connerie, 1955. Pour la première fois en 2005, il y a eu lieu en Belgique, et en Belgique il y a des journalistes qui sont légèrement indépendants de tout pouvoir politique ou économique. sur votre enfance, on connaît tout ça depuis. Merde, j'étais pas né. Non, mais je déconne, c'est un peu pour ça. Donc, du coup, ça sort, et pour la première fois, on en parle même sur les chaînes télévisées, le RTBF, etc. Et puis ensuite, il y a 2 ans en Espagne, et là, il y a des centaines de journalistes bon, qui sont restés à des dizaines de kilomètres, parce que quand même, entre-temps, il n'y a toujours pas de théorie du complot, hein. Mais il y a 250 hélicoptères et environ 25 000 flics qui sont là pour empêcher tout le monde d'accéder au truc. Moi, j'ai même pas besoin d'être auteur pour essayer d'imaginer ce que ces types-là sont en train de se partager. Ça ne vous vient pas l'idée, tout ça. Quand tout à coup, on convoque François Hollande, qui le dit dans les journaux, relayé en Belgique, en Suisse, en Allemagne, ça, en France, non pas, Libé n'en parle pas, Le Monde n'en parle pas, etc. C'est normal, quand je veux une info sur la France, je regarde les journaux suisses ou belges, quand je veux une info sur la Belgique, je regarde les journaux français ou suisses, parce que on connaît le jeu. Donc là, on est plus sur la théorie du contour, on est sur le fait qu'il y a des gens qui manifestement agissent. Alors, comme il a fallu quand même 5 ans pour découvrir le club Bilderberg, on imagine que s'ils ont voulu cacher quelque chose, c'est qu'ils avaient réellement quelque chose à cacher. Ne serait-ce que, éventuellement, ouais, on va peut-être aller discuter. Alors, Paul Staline était déjà voir Marek Brezhnev, qui en a fait partie, etc. Mais pour un auteur de thriller, mais c'est le régal. C'est le régal. Parler de ces 10 dernières années, c'est déjà assez amusant, mais quand on commence à extrapoler sur ce qui va se passer demain matin, et quand je dis demain matin, je vous parle vraiment de demain matin, le dimanche, on s'amuse encore plus. Et ça, c'est une façon de rêver aussi, parce qu'on apporte ce que vous disiez les uns et les autres tout à l'heure, c'est d'une part, on fait réfléchir, d'une part, on donne des clés qui permettent de décrypter un petit peu mieux la politique internationale et la géopolitique d'une façon générale, mais surtout, on vous emmène rêver, on vous emmène pleurer, avoir peur, et puis de temps en temps, dire, oh, ben tiens, c'est marrant, ils sont complotés, nous aussi. Mon rêve d'auteur complotiste, c'est vous complotiez avec moi. Par exemple, j'ai un pastis, c'est rapidement.
Non, ben oui, il se trouve que j'ai été pendant 15 ans, je travaille au Parisien aujourd'hui en France, et à la fin je m'occupais du service économie. Donc j'ai vécu l'histoire de Bilderberg. Je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire je suis d'accord sur un plan. C'est vrai que les médias français n'ont pas fait leur boulot sur Bilderberg, ça, clairement. Ils se sont tous axés sur Davos à un certain moment, et ils ont zappé Bilderberg. Et quand ceux qui connaissaient Bilderberg ont dit vous faire des enquêtes sur Bilderberg, ils ont dit bah non, et par là, en revanche, c'est pas, bah non, on ne fait pas le Bilderberg. Parce qu'on est tenu par des puissances financières. C'est tout simplement par paresse intellectuelle. C'est pire. C'est pire parce que moi, le premier papier sur Bilderberg qu'on a passé, c'est parce qu'il y avait une dépêche AFP sur. Il y avait eu un problème à Sitges, ils s'étaient réunis dans un hôtel de Sitges qui est dans la banlieue de Barcelone. Et il se trouve que les services de sécurité ont fait grève. Ils ne voulaient pas, les services de sécurité, notamment la Guardia Civile, ne voulaient pas être au service des maîtres du monde. Vous imaginez un peu le truc. Donc, du coup, ça a alerté les journalistes français. On a envie de dire tout de suite, mais il a fait le métier à l'AFP. Donc, là-dessus, c'est pas, on n'avait pas des actionnaires, des financiers qui nous disent, vous n'avez pas parlé du Bilderberg, parce qu'il y a tout. C'est simplement parce qu'en revanche, c'est vrai, il y a un manque d'ouverture, et aussi parce que ces thématiques-là étaient aux mains des complotistes. Parce que, aussi, il y a une marque d'infamie. Ah oui, Bilderberg, c'est les complotistes, et je vous. Encore là, enfin, je vais aller dans ton sens, c'était une émission mémorable de C'est dans l'air. On voit, il y a Yves Calvi, il y a un politologue à côté, il y a Jean-François Kahn, on est là sur c'est une émission sur les lobbies, les réseaux d'influence, bon, sur ce qu'on appelle des think tanks. Think tanks, ce sont des lobbies, c'est pas des maîtres du monde, c'est des gens qui font peut-être parfois leurs petites affaires. Et à un moment donné, question aux téléspectateurs, est-ce que vous connaissez le club Bilderberg? Et ces gens-là s'esclaffent. Ils s'esclaffent, encore un truc de complotiste, de conspirationniste. Donc, le téléspectateur, il s'est dit, il se fout de ma gueule. C'est pas possible. Ce truc existe et ces gens-là qui ont le savoir, mais ça n'existe pas. Et bien, il avait raison, complotiste, parce que non seulement il existe le groupe Bilderberg depuis les années 55, il a été financé en partie par la CIA, parce qu'à l'époque on était dans une logique de guerre froide et de lutte contre le communisme, et qu'aux États-Unis, c'était connu, archi connu. Donc là, il y a un problème, c'est pas tant le grand complot, c'est une histoire que les journalistes ne font pas leur job, et du coup, ils laissent ça, et bien d'autres gens qui eux vont balancer, et Pierre Zanry est là-dessus. Mais c'est mon petit niveau de jeu, ça. est-ce que cette notion de complot ne repose pas dans un certain nombre de cas sur tout simplement, comme tu dis, la paresse et l'incompétence? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on parle des groupes, par exemple, des groupes de lobbying qui sont effectivement des formes de complot, sauf qu'il s'agit de formes de complot entre guillemets officielles, parce que les groupes de lobbying sont connus, même si on ne sait pas très bien comment ils marchent. Est-ce que, justement, dans des situations, ils ne sont pas tous en train de tirer chacun pour eux, et que le résultat final, c'est qu'il y a une espèce de corde qui est tirée par 50 personnes à la fois en 50 directions, donc ça bouge de manière à peu près... Je vois que la Commission européenne est un bon exemple. Le budget de la Commission européenne, il est partagé entre l'agriculture, l'aéronautique, le machin, le truc, etc. Chacun tirant de son côté, chacun expliquant que c'est fondamental. Bon, ben, comme tout le monde est plus ou moins fondamental et que tout le monde a son groupe de lobbying, on reste à peu près au milieu. Voilà, alors, des fois, on tire un petit peu par là, puis on lâche un peu vers là. Puis, quand on tire un peu par là, les autres disent il est parti par là, donc tout le monde se met à retirer. Souvent, ça marche de cette façon-là. De la même façon qu'au gouvernement, enfin, dans beaucoup de gouvernements, vous avez des groupes de lobbying opposés. Alors, suivant l'argent dont ils disposent, suivant, etc., ils ont une influence plus ou moins dure. C'est que les très riches, en particulier, ont de l'argent et ont une influence très forte, sauf que les très riches ne sont pas tous d'accord entre eux. Ils ne sont pas du tout d'accord nécessairement sur les moyens d'obtenir ce qu'ils veulent. Et alors, ça, c'est intéressant parce que la gestion d'un multiple complot, ça s'appelle en fait la réalité. Est-ce qu'on l'a géré dans un bouquin? Ou est-ce que ça serait tellement chiant? Qu'est-ce qu'on pense tout là-bas au fond? Parce que est-ce que tu n'as pas envie d'imaginer des couches de complot superposées à un moment donné? Le complot derrière le complot derrière le complot.
Oui, mais alors, je vais encore retomber sur ce que j'ai entendu dire par Eric tout à l'heure. Le problème de ces trucs-là, c'est que tu en arrives à une construction un peu paranoïaque, de type poupée russe. Hein? Mais ça va encore plus loin, parce que si effectivement tout ce petit monde de télescope est nourri, c'est plus une poupée russe. Je veux dire, c'est la pelure de l'oignon, quoi. C'est de plus en plus fin, de plus en plus nombreux, c'est sans fin, ce truc-là. Donc, je crois que.
Donc, tu en sais plus que nous.
Non. Mais, par exemple, j'ai entendu un truc tout à l'heure qui fait un peu flipper. Si on est accueilli Davos, Lionel Davos. Non. Pardon, il fallait que je la fasse. C'est pas ça le truc. C'est encore une fois ce que disait Eric. Il n'y a pas que la paresse du journaliste, il y a aussi. La paresse du citoyen qui reçoit une info tronquée et ne va pas avoir le minimum de sens critique pour croiser les sources. Moi, j'ai un papa commissaire divisionnaire à la retraite, je le confesse, qui m'avait en tout cas appris un truc quand j'étais ado. Il recevait tous les canards au bureau et il s'obligeait à les lire tous. Parce qu'il partait du principe que, à l'époque, Libé était encore un journal vachement bien. C'était sans doute le mieux foutu, mais ce n'était pas suffisant. Et que prendre une info uniquement dans un canard, pour lui, ce n'était pas suffisant. Il n'arrivait pas à se faire une idée. En tout cas, il était persuadé qu'il n'aurait pas une idée juste. Et je crois qu'on est devenu, justement parce que l'info, elle est partout, tout le temps, disponible en permanence, l'info, quelle info, on est devenu extrêmement paresseux. Et on va commencer à la prendre comme ça, de façon totalement parcellaire, et pas à se poser de questions. Donc c'est rigolo de voir que, justement, cette absence de sens critique fait qu'on va nourrir le complot. Alors que justement, on ne se pose plus les questions, on va soupçonner d'autres gens de s'en poser trop, ou en tout cas de chercher à manipuler. Et ça, c'est assez effrayant.
Il y a aussi le fait que certaines situations sont entre guillemets inexplicables, à moins de faire une explication extrêmement longue et complexe, alors qu'une solution qui dit c'est la faute de. Et puis si tu ne me crois pas, de toute façon, tu es de leur côté, c'est une solution qui a l'avantage de fonctionner en tous les cas. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu fais partie du complot, tu es d'accord avec moi, ben non, tu comprends bien qu'il y a un complot.
C'est très simple, s'il y a un problème de chômage en France, c'est dû aux étrangers qui viennent travailler ici. Bref, l'exemple typique du raisonnement le plus simple à faire et facile à mettre en place, parce que il n'y a pas besoin de justification. Tu affirmes quelque chose et boum. Là, on est assez loin de la théorie du complot, mais on reste quand même sur le principe de fonctionnement des communications.
Mais avant, les étrangers, ça a été les femmes. Il faut savoir que la raison pour laquelle il y avait du chômage dans les années 50, c'était à cause des femmes qui occupaient plus des hommes qui restaient à la maison. Bon, avant, ça a été tout un tas de trucs. Il y a eu l'Église catholique qui a dit aussi que la faute du chômage, la faute des problèmes, c'était les gens qui ne croyaient pas parce qu'ils ne travaillaient pas pour la société, mais qui travaillaient pour eux-mêmes. Enfin, ils travaillaient. On a eu droit à tout un tas de trucs. Et simplement, la question de dire à partir de ce moment-là, est-ce qu'il existe un complot des étrangers venant en France pour obliger la France à... Ben, c'est un pas que l'on franchit quand on dit non, là, il y a vraiment trop de... Alors là, vous mettez dans la place des points de suspension la couleur. parce que bien c'est correct de parler, hein, il y a une espèce de silence. C'est tout son prénom.
Lionel, je pense que tu n'as rien à dire, il faut l'exprimer maintenant. Si tu veux qu'on en profite tous. Non, je pense que c'est effectivement pour reprendre un peu ce qui a été dit, je pense que c'est pas forcément. Alors, j'ai deux exemples à vous donner qui sont deux exemples. Un qui est très récent, qui date d'à peu près 3 jours. Il y a le fabricant d'antivirus, la Kaspersky, qui vient de lancer une alarme. Comme quoi, il y aurait un espèce de mouchard qui s'appelle Computress qui serait présent dans un très très bas niveau dans tous les ordinateurs à peu près grandes marques, d'Asus et Samsung et tout, etc. Ça vient de sortir, finalement il y a des démentis dans tous les sens. Mais c'est bien parce que, en gros, les titres que vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre ordinateur, c'est dedans, c'est au niveau matériel. Donc voilà. Et c'est en train de ça fait partie, c'est dans la longue suite hein, des trucs de surveillance type Prism, etc. Donc là, on est un peu comme dans Bilderberg, on est dans des choses qui interrogent un peu quand même pas mal. Un autre truc, mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément attribuer à une volonté complotiste ce qu'on peut parfaitement attribuer à une propension naturelle qui s'appelle l'incompétence. Un autre truc, par exemple, moi j'étais jadis dans une vie antérieure, j'étais biologiste marin, et bon, quand on est biologiste marin, on approche un peu la gestion des pêches, etc. La façon dont les quotas de pêche qui font tellement problème, à la fois pour les gens qui pêchent et qui vivent de ça, et puis bah, pour la ressource, parce que c'est force de pêcher des poissons, il n'y en a plus, c'est la façon dont les négociations se déroulent. L'Union européenne, on l'a un peu abordé, comment les quotas se décident. Alors il y a des scientifiques qui apportent des rapports en disant, étant donné l'état économique des flottilles, et puis l'état de l'écologie des ressources, en gros, ce serait bien de, je donne des chiffres, évidemment, ça ne veut rien dire, ça serait bien de ne pas pêcher. On n'est pas les gens de Bordeaux, même pas. Hein, fait. Ça serait bien de ne pas pêcher plus de 200 tonnes de harengs en mer Baltique. Ça apporte ça à l'Union européenne. Et puis, en général, la façon dont les négociations se font, c'est qu'on va parler avec les navires qui, enfin, les pays qui sont concernés par la mer Baltique. Et ils disent, ah, mais non, 200 tonnes, c'est pas possible, vous comprenez. Les lobbies des pêcheurs derrière, ça ne va pas leur plaire, il faut qu'ils vivent. Ce qui est normal. Non, il faut 250 tonnes. Alors, à ce moment-là, il y a d'autres pays européens qui disent, bon, bah, d'accord, 250 tonnes. Je t'en donne 250 tonnes, mais tu me donnes, rapport à la PAC, tu me donnes 100 litres de lait en plus, s'il te plaît. Est-ce que ça, c'est un complot? Non, ça s'appelle de la connerie. Concernant la façon dont on gère les ressources naturelles, en quoi est-ce que le hareng ou la morue va avoir un rapport avec le lait? La réponse est absolument aucune.
Quels sont les ingrédients dont on a besoin? Il faut une volonté, il faut des moyens, il faut des gens particulièrement méchants derrière, mais comment vous le mettez en place? Quels sont vos trucs? Parce que l'incompétence, on le voit très très peu, on voit très très peu de bouquins de l'Ovide basés sur le complot dans lequel on a des complotistes totalement inconséquents. On va profiter du fait que lui c'est un fainéant, que lui ils vont les faire avancer, être trompé, ça va marcher. Ça, on ne voit pas. On voit des gens super organisés, on voit Mission Impossible, il y a Tom Cruise partout. Et on se dit à ce moment-là, voilà, ils vont le faire, on va préparer les trucs ici, on a l'argent, voilà le plan et la stratégie. Comment ça marche en fait en pratique quand on l'écrit? Parce que.
Moi je connais avec ça, d'abord, il n'y a pas de recette, déjà.
Je pense que si l'éditeur connaissait les recettes de best-seller, il aurait pas eu que l'édition française se porterait bien, ce qui n'est absolument pas le cas. Si on est à un stade d'édition où chaque éditeur a absolument une recette, mais ça n'existe pas. Après, je pense que vous avez effectivement des ingrédients qui peuvent se planter ou marcher. Des clones du Da Vinci Code, j'en connais au moins 40. Ils se sont plantés. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les mecs ont dit, allez hop, je vais mettre du Templier, je vais mettre un secret perdu, je vais mettre une société secrète, je vais mettre un franc-maçon par-ci, allez, je check, je fais le checker, et hop, ils ont dit. C'est une catastrophe, ça ne marche pas. Donc, je dirais simplement, d'abord, il faut de l'authenticité. C'est-à-dire que si on veut réussir à construire le retirer en compte son public, il faut aimer ça. Il faut aimer ça, il faut du plaisir. Il faut du plaisir. Moi, avec Jacques Ravel, qui est franc-maçon, quand on parle des Templiers, il se trouve qu'à 16 ans et 17 ans, on allait fouiller dans des anciens commanderies parce qu'on croyait vraiment que le trésor des Templiers existe. On y croyait. À l'époque, c'était notre enfance. Donc, si adulte, on écrit des thrillers avec des Templiers, c'est parce que quelque part, ça nous fait toujours rêver. Et c'est quelque part, un jour, on les mains pris à voir une dépêche et qui tombe, qui disent, on a découvert un coffre avec un coffre Templier. On l'a toujours en tête, on ne l'oublie pas. Et là, on le voit tout de suite, nous, dans notre secteur,
complot, mais de plus en plus ce qui marche, c'est le complot dans le complot. C'est-à-dire ce qu'on vend, par exemple, dans le prochain, on parle des Illuminati, parce que c'est aussi dans l'actualité. Je vous signale qu'il y a une dépêche AFP qui est tombée il y a 3 jours, qui dit que de plus en plus de jeunes croient à l'existence des Illuminati. D'un premier niveau, on pourrait faire un thriller qui dit voilà, c'est les Illuminati, ils existent. Ben là, vous vous plantez. Il faut qu'il y ait autre chose derrière. Il faut que ce soit la poupée russe qui, à un moment donné, on sait que vous êtes ballotté. Et jusqu'à la fin, vous vous dites où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va me dire que les Illuminati existent? Ils existent ou pas? Et très souvent, ce qui manque dans le thriller français, la différence du thriller américain, dans ce secteur-là, c'est souvent français très manichéen. Les Américains sont beaucoup plus roublards. Même Dan Brown, qui était vilipendé, mais qui marche beaucoup, on voit que parfois, il est vicieux. Et le vice fait partie d'un bon thriller.
Méchant et meilleur à l'histoire. À partir de là, c'est la seule recette, enfin, en tout cas, c'est le seul ingrédient auquel on ne peut pas couper. Donc, c'est vrai que si je te fais des aventures d'un complotiste qu'on connaît et avec zéro moyen, ça va moyen d'en faire rêver les gens.
Mais attends, tu viens d'insister sur un point, c'est qu'il faut non seulement qu'il soit méchant, qu'il ait un objectif, qu'il fasse très peur, mais en plus, il ait de gros moyens et qu'il ait à son service des gens qui soient à la fois compétents et terriblement impitoyables.
S'est arrêté en l'an 33 et ça a failli marcher vers l'an 1000, sauf que tu as d'autres complotistes qui ont pris la même recette et là ils sont foutus sur la gueule.
Ouais.
Mais ça a failli marcher, mais tu sais quoi, ils n'avaient pas de gros moyens, je veux dire une poignée de rive, des sandales. Et en 14, ils ont
fait des sandales. D'abord, rappelle-toi qu'à l'époque,
le complot absolu, c'est qu'ils faisaient semblant d'être gentils.
Oui, c'est ça. Alors, à l'époque, derrière, quand même, il ne faut pas oublier, il y avait des juifs. Hein, c'était quand même un truc dont tu dis qu'ils n'avaient pas de gros moyens. Chaque personne est capable de voir ça. C'est vrai que ça fonctionne, ceci dit, il y a eu des complots dans l'histoire, mais je pense au complot des poudres en Angleterre, où il y a quand même quelqu'un qui creusait un tunnel sous le Parlement, qui mettait des barils de poudre pour faire sauter le petit machin, et ça a été découvert au dernier moment, et on a empêché le Parlement de sauter, quoi. Bon, mais c'est un vrai complot, c'est un complot qui a marché. On a arrêté les barils, c'est un vrai complot. Donc tout ça, ce sont des choses intéressantes à raconter, mais le complot qui dit, j'ai une société, ou tout au moins un groupe extrêmement méchant, malfaisant, agissant, avec des, je dirais, des objectifs particuliers en mon tortue, et j'ai des gros moyens, et j'ai des gens dans mon service qui sont particulièrement pitoyables, et vous lâchez face à ça un individu tout seul, qui se débrouille être en puissant, mais qui est un peu plus malin que les autres, et qui est un ancien essayeur. En plus, il est un peu entraîné aux arts martiaux, parce qu'il faut qu'il s'occupe, qu'il ne soit pas tout le temps au café. Donc, ce type-là, lui tout seul, il arrive à rejoindre les grands chefs, et pas à exploser tout le monde, et il ressort en disant le monde est sauvé.
C'est ça, ça peut faire mon regard de Jean-Claude, franchement, d'avoir spoilé tous nos derniers romans. C'est pas sympa. Alors, est-ce que du coup, maintenant, on peut essayer le truc maintenant, on change de temps en temps, on change les noms, etc. On met un coup Illuminati, un coup KGB, un coup KGB, merde, je suis d'un autre siècle.
Non, mais ce qui est aussi, c'est que c'est archétypal, c'est toutes les histoires, c'est un héros seul qui va faire une quête initiatique et qui va finir par arriver face à des ennemis ultra puissants, il va finir par arriver par sa quête d'aboutir. Ça existe depuis les Chevaliers de la Table Ronde, Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, qui est la première et grande épopée.
C'est une
Iliade. Tu as le complot de tous ces mecs sur l'Olympe qui s'amusent à monter un truc, et puis tu as des mecs qui se pointent, qui se pètent la gueule entre eux, et puis qu'à un moment donné, la justice a sorti du truc. Et bien, tu vois, ça devait être le petit gars, c'est moi, je t'ai niqué. C'est quand même ça, j'en fais l'Iliade un petit peu de ma façon, mais quand même à la base, c'est ça, je veux dire. Bon, vous traduisez ce que je viens de dire en grec, vous avez un truc qui fonctionne à peu près.
C'est ça, et tu m'as fait avec nos courses.
Ouais. Je l'aurais dit comme ça aussi.
Et ceci étant, ce qui rajoute quand même, ce qui change un peu par rapport à l'Iliade, c'est qu'on vit dans une époque qui est devenue paranoïaque. Clairement, et ça change un peu la donne, Internet est devenu un vecteur majeur de diffusion de théories complètement complotistes. Et l'époque, on ne croit plus la vérité officielle, on remet en cause. Donc à partir de là, toute théorie paranoïaque conspirationniste, vous avez un type qui s'appelle Michael Barkon, qui est un politologue qui a classé le conspirationnisme en 3 niveaux. Et vous pouvez tout de suite, vous-même, quand vous avez fait une théorie, faire le premier niveau, c'est une conspiration qui n'a qu'un but. Par exemple, la conspiration qui aurait voulu l'assassinat de Kennedy. Les gens, CIA, KGB et tout, auraient voulu tuer le président Kennedy. Une fois que Kennedy est mort, terminé, on passe à autre chose. C'est un niveau 1, conspiration. conspiration à ce niveau de conspirationnisme. Parce que tout le monde, on se pose des questions sur Kennedy, même si ça se trouve, c'est peut-être que l'IRV aux hommes.
Tout le monde participe à une conspiration de ce genre aussi en disant je veux que par exemple mon groupe de pêcheurs aligne sur le truc devienne les responsables nationaux de ce
truc-là. Voilà, ça c'est admissible, on peut l'admettre. Deuxième niveau 2, c'est quand vous pensez qu'il y a un groupe constitué qui va agir au fil des siècles pour accomplir un but. Par exemple, les juifs veulent depuis le début de l'existence du judaïsme avoir la domination sur le monde. Vous avez les francs-maçons. On croit que les francs-maçons complotent pour manipuler le monde. Ça, c'est le niveau 2. Là, on arrive à un niveau qui est beaucoup moins acceptable parce que ça véhicule des concepts politiques pour le moins nauséabonds. Et vous avez le troisième niveau, niveau 3 de parcours, mais c'est là où ça pose problème parce que les analystes pensent qu'on est en train de basculer vers ce niveau 3 où, en fait, on a par exemple un ennemi ancestral de l'humanité qui est là depuis le début et qui complote à la fin de l'homme, c'est-à-dire c'est les Illuminati, ce sont les extraterrestres et c'est Satan. Ça vous fait rire. Mais ce niveau 3, si vous voulez, c'est en train de grimper la population. Quand vous voyez les théories de complot, on a de plus en plus d'abus de ce qu'on appelle du parcours de niveau 3. Et là, ça ne fait plus rire parce que ça peut basculer dans des comportements. Par exemple, vous avez aux États-Unis, qu'on pense à faire des survivalistes, qui sont extrêmement. C'est redoutable. Et ces gens-là, pour certains, sont persuadés que depuis le début, parce qu'ils sont liés au puritanisme protestant, que Satan est en train d'agir pour amener la fin du monde. Le début, il a prévu ça. Donc, on va se barricader, on va s'acheter des flingues, et le premier qui passe, et si encore lui, il est basané, alors on va lui tirer dessus, et bien là, on a du parcours de niveau 3.
Et le complot a un avantage énorme par rapport à la réalité, c'est qu'il est cohérent. C'est-à-dire, il existe une explication simple, remarquablement limitée, totalement fausse, de la manière dont le monde fonctionne. C'est quelque chose qu'on apprend quand on fait des mathématiques, on dit tout problème complexe comporte une solution en général simple et élégante. Cette solution est fausse. Et là, vous avez des gens qui se disent « je ne comprends pas le monde, je ne comprends pas qu'est-ce qui prend aux gens de faire tout ça ». Et vous avez quelqu'un qui arrive qui dit « je sais, c'est la faute des points qui essayent de te contrôler parce que ce qu'ils veulent, c'est le chaos, la mort, la destruction, ils viennent nous aider à les défendre, on va vous armer les gens ».
La triste réalité du monde, malheureusement, c'est souvent inexplicable, mais ça ne fait pas de bonnes histoires.
Il est complexe, il est inexplicable, il est le résultat de plusieurs désirs, plusieurs volontés et plusieurs incompétences. Et ça fait un machin effectivement qui n'est pas très sexy, qui n'est pas très glamour, alors qu'une bonne théorie du complot bien solide, ça fait un bouquin, et puis quand on a fini le bouquin, on peut aller voir un coup. Ce que je vous propose de faire d'ailleurs, parce que nous approchons de la fin de cette table ronde, et ceux qui auront le droit de sortir, qui laisseront leur nom à la sortie et leur fiche, qu'on pourrait réfléchir à l'existence.
C'est pas la peine, donc à oublier d'enlever la batterie de son téléphone, donc on a tous les noms là.
De toute façon, tout ce qui a été dit ici, vous avez intérêt à l'oublier.